voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches-Noblecourt. Ce soir, les prolongements de la civilisation pharaonique.
Madame Noblecourt, dans votre beau livre « Le fabuleux héritage de l'Égypte ancienne » paru aux éditions Télémaque, vous avez montré comment la civilisation de l'Égypte pharaonique avait des prolongements dans notre propre civilisation. Parmi ces prolongements, l'un des plus frappants que vous avez montré est le cas du zodiaque. Est-ce que vous pourriez nous parler du zodiaque et des influences égyptiennes que vous avez découvertes sur ce zodiaque ?
Eh bien, d'abord le zodiaque, les signes qui évoquent chacun des signes du zodiaque viennent de l'Antiquité et presque tous de la Haute Antiquité. Ce qui était amusant de voir que les Grecs et les Romains n'ont rien trouvé, tout vient d'Égypte et nous en avons la preuve par des séquences, des successions de petits tableaux imagés qui évoquent les uns et les autres ces fameux signes du zodiaque. Vous en avez la preuve dans beaucoup de monuments, mais ce qui est très amusant, c'est de retrouver dans le zodiaque de Vézelay, au centre même, là où se trouvent les signes qui peuvent évoquer le jour de l'an, trois signes hiéroglyphiques qui évoquent chacun, suivant sa signification, ce qui se passe dans la géographie égyptienne du jour de l'an, c'est certain. Vous les avez la plupart du temps représentés dans les zodiaques. Je ne sais pas si vous en avez ici des
représentations. Dans votre beau livre, ils sont représentés en gros plan. Alors ces trois signes, je vais les décrire pour les auditeurs. Le premier signe représente un chien courbé sur lui-même.
Alors ce chien, c'est le petit chien de Sotis qui va annoncer l'inondation. L'étoile Sotis qui est dans le ciel et qui va réapparaître au moment de l'inondation.
Le second signe représente un corps momifié, courbé en deux, la tête rejoignant les pieds.
Oui, entre la vie et la mort. C'est l'évocation d'une éventuelle résurrection.
Et il y a un parallèle dans l'Égypte ancienne, alors ?
Oui, le parallèle est directement retrouvé sur des représentations que l'on appelle astronomiques, mais qui pourraient figurer dans d'autres représentations du ciel égyptien qui ne soient pas typiquement astronomiques.
On le retrouve dans la Vallée des Rois, je crois.
On l'a retrouvé, vous en avez des représentations ici, où on voit un personnage qui met ses pieds sur sa tête. Et ce sont les mêmes représentations que vous retrouvez dans la vie journalière des Égyptiens qui veulent évoquer des événements qui se passaient dans le ciel.
On la trouve dans la tombe de Ramsès VI, si je me souviens
naturellement.
Bien. Naturellement. Dans la dernière heure de la nuit.
C'est là où les scribes ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Très bien. Alors maintenant, le troisième signe. Le troisième signe représente une sorte de sirène.
Oui, c'est normal. C'est la conclusion de l'inondation. L'eau va revenir avec la déesse.
Donc, si l'on fait la synthèse, ces trois signes représentent la nouvelle année, si je comprends
bien. La nouvelle année. Du reste, vous les trouvez au milieu du zodiaque, au centre même, à Vézelay.
Donc, le chien, c'est la canicule. Hein,
oui,
on en avait parlé dans les entretiens précédents.
La momie courbée, c'est le corps d'Osiris qui va renaître, et la sirène qui amène le retour de la déesse.
Donc nous avons un cas absolument extraordinaire.
Oh, c'est extraordinaire. Et ça se retrouve à Vézelay. Enfin, c'est invraisemblable de penser que ça se retrouve chez nous.
Un prolongement inattendu de la civilisation pharaonique.
Je me demande si c'est inattendu.
Ah, vous pensez que la civilisation pharaonique...
Il y en avait d'autres qu'on n'a pas compris, qui ont été démolis, mais...
Vous pensez qu'il y a eu une influence...
L'art roman était hérité par des pèlerins. Des voyageurs, d'images qui venaient directement du Proche-Orient. Ça, j'en suis sûr.
Et donc, ils ont véhiculé jusqu'en
oui,
Occident.
Oui, c'est eux qui ont véhiculé ça. Mais on voyageait beaucoup dans l'Antiquité. Et vous aviez des pèlerins qui voyageaient et qui arrivaient en Égypte bien avant l'époque romane. Et quand ils arrivaient dans les régions plus tempérées, j'allais dire égyptiennes, eh bien, ils ressemaient le grain égyptien partout où ils pouvaient passer. Qu'ils comprenaient bien ou pas bien. Très souvent, on voit qu'il y a des symboles qui sont mal interprétés. Mais la plupart du temps, ils comprenaient encore. Suivant la qualité intellectuelle des pèlerins qui les véhiculaient. C'est ça l'importance.
Donc on peut donc parler de fabuleux héritage. Mais justement, vous venez de nous parler des pèlerins qui se rendaient en Égypte.
Ah ben oui.
S'ils se rendaient en Égypte, c'est qu'il y avait une raison. Cette raison, c'est peut-être cette tradition très largement répandue.
Le pays de la vérité.
D'abord, mais aussi une tradition plus proche du Nouveau Testament. Ah. Il y a toute une tradition qui raconte que la Sainte Famille aurait voyagé en Égypte.
Ah oui, ça. Il le prétendait et il le prenait. Tout le monde ne le prenait pas au sérieux. Et pourtant, la Sainte Famille a dû passer en Égypte. C'est certain. Et à mon avis, c'est certain. Il faudrait évidemment poursuivre l'enquête, amener toutes les preuves que l'on subodore. Mais la Sainte Famille est passée en Égypte. Sans aucun doute, elle n'aurait pas été aussi bien éclairée.
Et donc, en Égypte, cette tradition était matérialisé par des lieux de culte où les pèlerins allaient se rendre. Par exemple, l'Arbre de la Vierge à Mataria.
Exactement, exactement. Ils sont allés jusqu'en Moyenne Égypte. Et il y a même une série d'églises qui semblent avoir été fondées par des moines qui auraient essayé d'exalter les endroits où Jésus s'était arrêté. Et il y a même un moine allemand qui a fait toute une thèse sur le voyage de ces pèlerins qui se sont arrêtés en Moyenne-Égypte et le nombre d'églises consacrées au voyage. Il y en a eu.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres secteurs qui ont pu donner à croire qu'il y avait un lien entre l'Égypte pharaonique et le christianisme ? Par exemple, Isis. Est-ce que Isis n'a pas pu, dans une certaine mesure, inspirer le personnage de Marie ?
La légende d'Osiris a dû inspirer la légende de Marie. On n'en a pas la preuve. Mais on le sent. En lisant ces légendes, on sent, on subodore un personnage qui est derrière, mais qui ne se révèle pas. Mais à mon avis, c'est certain.
Mais dans quelle mesure, comment, quels sont les points de contact entre le christianisme et la légende osirienne, de manière plus précise? Est-ce que c'est Marie en tant que mère?
Le dévouement de Marie. Marie, mère, Marie dévouée, dévouée au Christ, dévouée à son fils, mais dévouée à l'entité masculine qui devait subsister de la légende osirienne.
Oui, parce qu'il faut rappeler donc aux auditeurs que dans la légende osirienne, il y a un long épisode très populaire dans lequel la déesse Isis, grosse des œuvres d'Osiris qui est mort, élève son fils qui va naître et le protège contre tous les ennemis. C'est ça que vous pensez qui a pu inspirer le rapprochement avec Marie?
C'est certain, c'est certain. Il y a même une légende médiévale où il est question que la Vierge cache l'enfant Jésus dans des buissons, surgère, l'a évoqué. C'est certain, c'est certain.
Oui, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs que dans les mythes égyptiens, la déesse Isis cache le jeune Horus.
Elle le cache dans les buissons.
Et pourquoi le cache-t-elle?
Elle est obligée de le défendre des attaques du malin.
Oui, parce qu'il faut rappeler ce qui s'est passé. Osiris a été tué par Seth qui voulait prendre sa place. Et donc Osiris est mort, mais Seth apprend qu'il y a un héritier. Et donc cet héritier peut lui contester la place d'Osiris qu'il a usurpée.
Exactement.
Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer?
Isis est presque condamné à défendre son fils toute sa vie.
Alors, où se passent les épisodes montrant Isis cachant Osiris? C'est dans quelle région d'Égypte qu'elle le cache?
On ne sait pas trop, on dit les marécages.
Et alors, ils se situaient où, ces marécages?
On ne sait pas.
Ils ne se situaient pas plutôt dans le nord de l'Égypte, dans le delta autour de Khémis?
On l'a cru, mais on ne le sait pas trop. Enfin, ça ne doit pas être dans le sud, ça doit être dans le nord. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle le cache dans les marécages. Et toutes ces zones aquatiques ne sont pas des zones désertiques. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire.
D'autre part, est-ce que vous avez découvert d'autres rapprochements possibles entre la spiritualité égyptienne, pharaonique, et l'esprit du christianisme?
Alors là, les rapprochements sont constants. Constants, faciles, quelquefois trop faciles, il faut se méfier, mais il y a énormément de rapprochements. Il faudrait reprendre tout le sujet, et on en trouverait encore d'autres.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples?
Voyons, bah, y a d'abord le dévouement d'Isis, qui est charnellement attaché à la défense de son fils. Fils d'un père plus ou moins inconnu, ou s'il n'est pas inconnu, d'un père qui a disparu et qu'elle regrette. Mais elle est le pivot même de toute la légende. Évidemment, s'il n'y avait pas eu la mère, il n'y aurait pas le fils. Mais le père compte, mais très peu, quand on pense à la force que représente la mère, c'est-à-dire Isis. Et Isis, vous la trouvez dans toutes les légendes en Égypte, c'est la déesse qui protège. Isis est toujours là.
Il y a
d'abord
des...
pour mettre au monde, et ensuite pour sauver.
Alors justement, il y a des épisodes particulièrement piquants de la manière dont Isis protège son fils, en particulier contre les scorpions.
Ah oui, oui.
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle use de, ah ce, ben, de est, ses capacités de magicienne.
En même temps, si vous voulez, la sorcière, et elle peut faire surgir des défenses supraterrestres quand c'est nécessaire. Elle est la grande sorcière, Isis.
C'est la magicienne.
La magicienne, mais magicienne, sorcière.
Quelle différence vous faites entre les deux?
Bah, la magicienne, c'est la magie noire, la magie blanche. La sorcière, c'est celle qui peut tout faire. Et elle peut utiliser tous les moyens pour sauver son fils. Donc, elle domine toutes les forces possibles, Isis. Elle les fabrique même. Elle se domine elle-même, elle se dépasse elle-même. Ça, c'est Isis. C'est dans le fond l'image de la mère qui ferait tout pour arriver à sauver son enfant. Et elle y arrive. C'est très édulcoré dans la, j'allais dire, la légende du Christ, si vous voulez. La Vierge Marie qui, avec Saint Jean, pleure le Christ, c'est rien du tout en comparaison de ce qu'a fait Isis qui, elle, a ressuscité. Les légendes égyptiennes sont beaucoup plus fortes. C'est poignant, cette légende. La mère a ressuscité. Dans la légende chrétienne, elle a ressuscité l'image de son fils. Mais matériellement, c'est dans l'Égypte que le Horus a été sauvé.
Voix nue, rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches-Noblecourt.
Il est vrai qu'un des points communs que l'on peut trouver entre le christianisme Et l'Égypte ancienne, c'est justement ce phénomène de la résurrection.
C'est la résurrection.
L'idée qu'un mort n'est pas mort définitivement, exactement, mais que, pourvu qu'il ait certains soins, certains
rites... Ça a été édulcoré par la religion chrétienne, parce qu'on a fait intervenir la foi. Dans l'Égypte ancienne, c'est beaucoup plus cru, parce que ça dépend encore de la magie.
Mais alors vous pensez qu'on peut parler vraiment d'influence, c'est-à-dire que le concept de résurrection véritablement...
Ça a été plus ou moins édulcoré, c'est normal. Quand la légende se mêle de quelque chose, ce n'est plus la même force. Mais à l'origine, c'est ça. Ça ne peut pas ne pas être ça, il y a trop de points communs.
Donc le christianisme plongerait certaines de ses racines dans le passé pharaonique.
Mais oui, c'est certain. Transformer... C'est Saint-Seth. La passion du Christ, c'est pas tout à fait la passion d'Osiris. Mais on retrouve tous les points communs.
Le Dieu qui souffre ?
Mais oui, tout. Tout, mais c'est transformé. Ça a été transformé par la légende et par l'Église aussi.
Oui, parce que...
Il y a tout mis du côté de la religion.
Parce que d'un autre côté, d'un point de vue historique, il faut regarder aussi les faits. La civilisation pharaonique... Elle est morte à cause du christianisme.
Bah tiens.
Puisque ce qui a tué la civilisation pharaonique, c'est l'édit de Théodose qui, à la fin du 4e siècle
ère,
a décidé de fermer les temples païens. Et dans les temples païens, il y avait les temples pharaoniques.
Exactement. Alors à ce moment-là, on supprime la source. On supprime l'origine. Et on retombe sur les curés.
Mais
il y a le christianisme.
Il y a quand même un endroit où le paganisme égyptien a survécu un siècle de plus, c'est Philée, que vous connaissez bien.
Ah bah oui, il a survécu même un siècle et demi de plus. Ah oui, c'est certain.
À cause de qui ?
Des prêtres d'Isis.
Et puis des peuplades nubiennes qui s'étaient christianisées.
Ils étaient christianisés suivant la mode chrétienne, déjà, pré-chrétienne. Les Nubiens étaient des fervents d'Osiris et d'Isis avant la lettre. Les Nubiens étaient très intéressants. Et les reliques de Philée ne sont pas toutes ouvertes, ni étudiées. On en retrouvera.
Vous pensez qu'il y a encore
oui,
des espoirs ?
Oui, des choses qu'on n'a pas très bien compris dans les textes de Philée.
Vous pensez qu'il y a encore places à de nouvelles découvertes dans les textes religieux de Philée.
Ah oui. Mais il faut beaucoup de patience. Il faut vraiment une patience de moine. Et on y arrivera.
Et alors précisément, en amont de Philée, il y avait certains temples dans lesquels non seulement il y avait des dieux pharaoniques, mais il y avait aussi des dieux nubiens qui ont été adaptés à la religion pharaonique. Il y a Mandoulis, par exemple, dont vous avez parlé.
Oui, oui, on l'a plus ou moins égyptianisé. Il s'appelait Mereruru, Mandoulis.
Et on le retrouve dans ces temples nubiens ?
On le retrouve, il est affilé.
Quelle forme a-t-il ?
On lui donne une forme humaine. Il a une forme humaine, Mandoulis. Et il s'écrit Mereruru. C'est curieux comme nom.
Non, je crois que l'explication est connue. C'est parce que le son que l'on note R en égyptien,
oui,
pour les Nubiens, ça correspondait souvent à D.
Et L aussi. Voilà. Ah oui, c'est certain. Mais Mandoulis est une des dernières projections qui se trouve affilée.
Alors on continue avec les prolongements de l'Égypte pharaonique dans notre monde, à nous, occidentaux. Il y a quelque chose d'inattendu, c'est que dans notre vocabulaire que nous utilisons, il y a un certain nombre de mots dont l'origine est égyptienne. Est-ce que vous pourriez nous en énumérer quelques-uns ?
De mots égyptiens ?
Qui sont passés dans notre langue à nous et que nous utilisons couramment, mais dont l'étymologie est la langue égyptienne. On va prendre l'exemple le plus connu, le mot papier par exemple.
Ah oui, papyrus.
Vous pouvez donner l'explication ?
Papera. Papera, on ne peut pas trouver une autre explication.
Donc le mot papier.
La chose du pera, c'est-à-dire Du pharaon.
Du pharaon. Donc, notre mot papier, comme le mot papyrus, viennent tous deux d'un mot égyptien, pa en pera, qui signifiait la chose du pharaon. Pourquoi ? Parce que le papyrus était un monopole.
Ben oui, c'était le monopole royal. Oui, mais oui, il n'y a pas de doute. Il y a d'autres mots comme ça, pas énormément, mais il y en a.
Alors on peut les énumérer parce que c'est très curieux. Il y a le mot gomme, par exemple.
Ah, gomme, gommi, gommi, oui.
Il y en a un qui est très curieux parce que c'est un mot que nous utilisons en français et il mêle à la fois un élément arabe et un élément de l'Égypte ancienne. C'est le mot alchimie.
Ah, ça c'est drôle, c'est très amusant, alchimie. Chimie, c'est l'Égypte et al, c'est l'article. Ça a donné alchimie, l'alchimie. C'est assez amusant.
Madame de Blecourt, n'y a-t-il pas deux prénoms qui sont portés encore à notre époque et dont l'étymologie est une étymologie égyptienne ?
Vous pouvez commencer par Onofrius, parce qu'il était utilisé au-delà du Moyen-Âge. Onofrius vient de Unennefer. C'est presque calqué, ce qui veut dire « unen », celui qui est perpétuellement « néfer » vivant. C'était l'épithète que l'on donnait à Osiris, donc « unen néfer », « Onofrius ». Et « Onofrius » a été employé au Moyen-Âge.
Oh, mais c'est encore employé, « Onufre », et puis en Italie, il y a fameuse église « San Onofrio ».
Saint Onofrius.
Alors, il y a aussi, Pacôme, on m'a dit que Pacôme était d'étymologie égyptienne.
Pachem.
C'est-à-dire
oui. Le faucon. Mais il y a un mot, certainement, dans lequel on peut retrouver un nom égyptien, c'est Ophis. Il n'y a aucun doute.
Dites-moi comment.
Parce que les Ophidiens, c'est tout ce qui est serpent. Et donc, Dieu sait s'il y en a en Égypte.
Madame de Blecourt, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous définir d'une manière très générale ce qui est le fabuleux héritage de l'Égypte pharaonique?
Vous définir l'héritage de l'Égypte pharaonique. C'est d'abord un héritage physique. Les Égyptiens et les petits Gaulois ont toujours apparu à l'esprit de certains chercheurs comme ayant des origines non pas semblables, mais voisines. Il est très curieux de voir les affinités qu'il peut y avoir entre les gens de chez nous et les Égyptiens. C'est peut-être un hasard. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait un hasard et que la petite parcelle de la Gaule qui touche la Méditerranée a été bénie des effluves de cette Méditerranée qui nous provient de l'Égypte. Pourquoi ? Comment ? Je me le demande. Mais il y a des affinités. Et elles ne sont pas faciles à trouver. Mais elles existent. Alors, comment sont-elles ? Comment les définir si vite ? Il y a la mentalité d'Africains méditerranéens. Ils sont modelés par les eaux du Nil, qui en ont fait des personnages nilotiques très typiques qu'on ne retrouve qu'en Égypte. Alors, pourquoi le retrouve-t-on chez nous, sur les rives de la Méditerranée et de nos fleuves qui baignent la Méditerranée, tant d'affinités? Ce n'est pas simplement les chaleurs du climat, ce sont avant tout des affinités de voyageurs. Est-ce que c'est par les Phéniciens? Je me le demande. Mais ça n'est pas venu tout seul. Ce sont des peuples qui ont voyagé. Et parmi ceux qui ont voyagé le plus et qui ont pu aborder Massilia, qui est devenue Marseille, peut-être ce sont ceux-là qui ont apporté le peu qu'ils avaient prélevé de l'Égypte. Voilà ce que je peux vous dire.
Parmi tous les chefs-d'œuvre que nous a légué le passé pharaonique, quel est celui qui, pour vous, compte le plus ?
parmi tous les trésors.
Tous les trésors, tous les œuvres, tous les temps, qu'est-ce que vous préférez?
Les yeux du scribe accroupi. Toute la civilisation égyptienne est passée dans ce regard, et ce regard nous inonde encore. Il suffit avant tout de le capter, de le regarder, de l'utiliser au maximum et de le garder dans son cœur. Et il nous restera toujours l'éclair de la civilisation égyptienne qui se mélange très harmonieusement avec celui qui illumine notre propre civilisation.
Merci, madame.
Fin de cette rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches Noblecourt. À voix nue, réalisation Christine Berlamont, prise de son Frédéric Quérou, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.